connaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être. Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Et c'est aussi une émission qui prend le temps de ne pas aller vite, avec aujourd'hui à la technique Anne-Charlotte Guillem, Éric Morin, et assisté de Marion Lelay et Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, des petites humeurs liées à l'actualité. Chasseur-nez, le retour. Ça s'est passé dimanche dernier à Chorey-les-Beaunes, en Côte d'Or. On chasse le gros gibier au bord de l'autoroute A31. Un automobiliste qui roulait par là se prend une balle dans la tête et meurt peu après. Ça s'appelle chez nous un fait divers. Alors rassurez-vous, Sarah Palin n'y est pour rien. La France, ce n'est pas les États-Unis. 200 millions d'armes à feu et 30 000 morts par an. Là-bas, vous me direz, on flingue son prochain pour un oui, pour un non. Donc pas d'amalgame. Non, pas du tout. Nos chasseurs gaulois, eux, s'en prennent plutôt à la marre, à la belette, au renard et au sanglier, avec le succès que l'on sait, puisqu'il y en a de plus en plus. Et pourtant, 20 morts violentes en moyenne chaque année par accident de chasse, c'est encore 20 de trop. Surtout lorsque c'est un gamin de 11 ans qui reste sur le carreau, comme ça s'est produit dimanche aussi lors d'une battue au sanglier en Haute-Corse. Alors ça s'appelle la chasse accompagnée. Oui, c'est organisé par les fédérations départementales de chasseurs, en partenariat avec l'éducation nationale. Mais oui, notre éducation nationale, elle adhère vraiment à cela. Des plus petits jusqu'au lycée, ça nous promet donc des petits flingueurs par milliers peut-être plus tard. Bref, plus d'un million de pianoteurs de la gâchette qui empêchent les 60 autres millions d'habitants de l'Hexagone de se promener en forêt le dimanche sans gilet pare-balles. C'est une rengaine que vous connaissez. Ce qui nous amène quand même à revoter énergiquement pour l'ouverture des campagnes aux promeneurs du dimanche et l'arrêt de la chasse ce jour-là. Alors, rappelons que nous sommes toujours sans nouvelles de la pétition présentée en février 2010 à Jean-Louis Borloo par l'ASPA, c'est-à-dire l'Association pour la protection des animaux sauvages, association qui s'intéresse aussi, vous l'avez compris, au sort des êtres humains tout à fait ordinaires comme vous et moi. Dans notre rubrique nature, notre campagne ouverte le dimanche, écoutez, on la préfère version Grenelle de l'environnement qui, je vous le rappelle, prévoyait dans sa grande générosité utopique de diviser par deux l'utilisation des pesticides. Mais évidemment, tout ça commence à bien faire. Donc ça donnait quelques idées aux pommiculteurs d'Alassac en Corrèze, et des riverains les accusent pour la première fois d'avoir traité leurs pommiers par jour de grand vent au risque de répandre des embruns toxiques jusque dans les salles de bain. Alors le jugement a été mis en délibéré au 10 mars au tribunal de Brive, donc affaire à suivre. Ma chérie, c'est quoi ton nouveau parfum? Mais voyons, c'est Roundup de chez Monsanto. Ouh, mais ça te va à merveille, cette petite claque sur le visage. Et enfin, en Australie, on le sait, ce sont plutôt les crocodiles et les requins bulldogs qu'on pêchait ces jours-ci dans les rues inondées de Rockhampton et de Brisbane. Des logements détruits, des centaines de milliers d'habitants déplacés, donc une catastrophe dont on se croyait protégé dans l'état du Queensland, depuis la construction d'une série de grands barrages. Sauf que les ingénieurs de la région n'avaient pas imaginé les pluies records qui s'abattent sur le nord-est de l'Australie depuis le mois de décembre. Donc la faute sans doute à un épisode climatique de la Niña, particulièrement virulent, qui pousse de gigantesques masses d'air humide vers l'ouest de l'océan Pacifique, sans oublier les inondations au Pakistan l'été dernier, les coulées de boue au Brésil avec la conjugaison classique d'événements dantesques, oui, mais aussi d'un urbanisme anarchique, la violente mousson au Sri Lanka et son million de réfugiés. Et pourtant, le phénomène est assez connu. Hein. Tenez, j'ouvre mon livre de SVT, là, ça y est, page 125, je lis, plus l'air est chaud, plus il se charge de vapeur d'eau. Or, le Centre National de Données Climatiques américain nous apprend cette semaine que l'année 2010 a été la 34e année consécutive durant laquelle les températures du globe se sont situées au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Alors dites-moi, mon cher Watson, vous en déduisez quoi? Tout ça, c'est encore un coup des réchauffistes? Mais oui, mais il faut les brûler, ces porteurs de mauvaises nouvelles. Ah non, ça va rajouter à l'effet de serre. Alors avant de partir à Los Angeles, notre petite actualité, d'ailleurs avec un homme qui connaît très très bien ces affaires de réchauffement climatique, Frédéric Denry, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Denis.
Puisque vous êtes aussi l'auteur de l'Atlas du réchauffement climatique aux éditions Autrement. Ça va être la 4e réédition. C'est donc un ouvrage qui fait tout à fait référence. Peut-être quelques mots d'ailleurs avant de passer à notre sujet sur le prix du gaz qui va faire suite au gaz de schiste de la semaine dernière. Quelques mots quand même sur ce réchauffement, enfin sur ces chiffres qui viennent de tomber.
Ben oui, 2010, c'est sans doute l'année la plus chaude du monde depuis 100 ans à peu près, presque à égalité avec l'année 2005, qui avait battu tous les records. J'emploie le conditionnel parce que les résultats doivent être encore validés, vérifiés, etc. par d'autres offices météorologiques, mais manifestement, quand on regarde les cartes satellites et qu'on les compare avec celles des années précédentes, 2010 est vraiment une année très chaude. En particulier sur l'Asie centrale, par exemple, on a battu des records sur l'Arctique, le Canada, et par contre, il y a des endroits, évidemment, il y a des endroits qui sont un peu plus frais, comme l'Australie, comme le Pacifique tropical, et puis il y a la France, qui a connu un hiver un peu, comme vous le savez, un peu rude, qui est juste un hiver normal, on avait juste oublié ce qu'étaient des hivers normaux. Et ça, c'est dû, ça n'a rien à voir avec le réchauffement, c'est dû à une conjonction de phénomènes météorologiques, d'anticyclones, de dépression, qui ont fait que l'air froid venu d'Arctique, qui habituellement est chassé par les vents d'ouest, ne l'a pas été et donc arrivé jusqu'à nous. Quant à l'Australie, oui, c'est un phénomène Niña qui est l'exact inverse du phénomène Niño.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire au lieu que les pluies soient à l'est, elles arrivent à l'ouest. Et c'est une catastrophe pour des terres qui les ont tant attendues, ces pluies, et qui, les ayant trop attendues, se sont un peu resserrées et l'eau a du mal à s'y infiltrer. Mais, m'assurent quelques amis qui connaissent bien la région, ce serait plutôt bénéfique pour l'Australie.
Alors, Frédéric Denry, deuxième partie de cette actualité, et qui va faire suite à notre émission de la semaine dernière, où il y a eu beaucoup de courriels, parce que les gens ne connaissaient pas donc ce fameux gaz de schiste. Je vous rappelle que si vous souhaitez trouver les cartes, ça doit être possible, hein, c'est pas très compliqué de savoir où ont lieu actuellement les prospections. Donc, on est bien au stade de la prospection, aussi bien en Île-de-France que dans le sud de la France. Alors, pourquoi, en fait, le prix du gaz monte, là, après, on reviendra sur le gaz de schiste, mais d'une façon générale, pourquoi il y a une indexation de ce prix du gaz sur le prix du pétrole?
Alors ça, c'est historique. C'est historique parce que à l'époque où en Europe, suite à la découverte d'un champ gazier considérable en Hollande, c'était au début des années 50, il a fallu lancer ce marché du gaz. Il a fallu le rendre compétitif auprès de clients potentiels qui étaient les plus gros industriels et les plus grandes villes qui, elles, utilisaient du pétrole. Donc pour rendre le gaz compétitif, il fallait qu'il le soit encore, en particulier si d'aventure le prix du pétrole chutait. Raison pour laquelle on a naturellement indexé le prix du gaz sur le prix du pétrole de façon à ce que le différentiel soit toujours le même et à ce que donc la compétitivité du gaz soit maintenue. Voilà, donc ça c'est une raison historique. Et puis si le prix du gaz est aussi élevé, c'est aussi parce que jusqu'à l'arrivée du gaz de schiste, pour avoir du gaz, il fallait construire des gazoducs. Il faut toujours construire des gazoducs.
Et donc une infrastructure très lourde.
Une infrastructure extrêmement lourde, très coûteuse, qui réclame aussi, quand les gazoducs passent dans des endroits un peu bizarres, qui réclame aussi des forces militaires en présence. Donc tout ça a un coût, et ce coût justifie en partie à la fois de signer des contrats à très long terme, sur 20 et 30 ans, et d'avoir des contrats à un prix élevé pour financer ces investissements élevés.
Mais alors cette arrivée, on va dire, explosive du gaz de schiste sur le marché, est-ce que ça ne nous éclaire pas un peu sur l'ambiguïté des liens entre le marché et aussi l'avenir climatique?
Ah bah oui, bien sûr. Alors l'arrivée du gaz de schiste, c'est la plus mauvaise nouvelle pour quiconque a envie que nous consommions moins d'énergie, ce qui ne peut être que bénéfique.
Ce que nous a dit Corinne Lepage, oui.
Voilà, donc c'est une très mauvaise idée parce que si vous voulez, on était en train de passer de la civilisation du pétrole à la civilisation du gaz parce qu'il y a plus de réserves de gaz que de pétrole. Et là, on est rentré vraiment subitement dedans avec cette bulle de gaz qui nous est arrivée et qui risque, entre guillemets, de rendre, par exemple, les États-Unis autosuffisants en gaz d'ici une vingtaine d'années. Voilà, on avait 70-80 ans de réserve. On va peut-être dépasser le siècle grâce ou à cause de ce gaz de schiste.
Et la concurrence, alors, parce qu'en fait, on pourrait se dire qu'elle pourrait être acharnée pour...
Ben non, elle l'est pas. Alors effectivement, le prix du gaz que vous et moi payons sur ces contrats à long terme, dont le prix élevé est en partie justifié, on était à 0,042 je crois euros par kilowattheure hors taxe, et le prix du marché tout à l'heure, j'ai regardé sur la bourse NYMEX à New York, on est à 0,014. Donc il y a quand même un gros écart de prix qui justifiait cet écart, enfin ce prix de 0,014, il est justifié par le fait qu'on a une offre énorme alors que la demande est un peu baisse, est un peu basse à cause de la crise. Et du coup, le prix élevé que nous payons aujourd'hui, il paraît aberrant. Alors, on peut supposer que, c'est grâce à la concurrence.
Ben non.
Parce que si vous voulez, on a privatisé des monopoles publics et donc on a des GDF, on a en France, on a des Enel en Italie, et ces gens-là, comme ils sont privés, que l'État n'a plus à y relire grand-chose, n'a plus à y mettre son nez, ces gens-là ne veulent faire qu'une chose. Qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire augmenter leur marge et se mettre des sous de côté.
Ce que vous nous dites, c'est que la privatisation donc, n'a rien changé, si ce n'est qu'elle
tout.
A transformé un monopole public en un monopole privé, assurant donc ses marges avec la clientèle captive que nous sommes.
Oui, et en plus, la hausse continuelle du prix du gaz permet à Gaz de France, notamment, d'éponger un peu les dettes considérables que l'arrivée du gaz de schiste a créé chez Gaz de France, qui n'avait pas du tout prévu le coup. Du gaz de schiste et avait donc investi massivement sur le gaz naturel liquéfié.
Alors ce que révèle le gaz de schiste, c'est que le marché a toujours raison et qu'il fait exactement ce qu'il veut.
C'est terrible parce que ou bien vous êtes écolo et vous applaudissez au prix du gaz élevé, mais du coup vous êtes forcé d'applaudir à la libéralisation du marché qui a abouti à créer une rente de situation pour les géants du gaz autrefois publics, maintenant privés. Ou alors vous pleurez et vous dites mais non, il faut que le gaz ne soit pas cher pour que il y ait moins de gens qui ne sont pas capables de chauffer en France. Il y en a 10% à peu près. Et dans ce cas-là, vous devez applaudir à un marché spéculatif qui est le marché du gaz que l'on paye au comptant, un marché spéculatif qui est en train d'exploser grâce ou à cause de l'arrivée du gaz de schiste et qui, un jour ou l'autre, peut s'effondrer avec des prix qui peuvent faire le yo-yo. Donc, des deux côtés, on est coincé avec le marché.
Merci beaucoup pour cette analyse, Frédéric Danhué. Danhué, c'est un nom du Nord ou du Pas-de-Calais ?
Ah non. Danhué, c'est ch'ti.
Ah.
Les Pas-de-Calais, ce sont des boyaux rouges.
Les boyaux rouges, ça doit être les boyaux rouges, c'est ça ?
Oui, vous allez me parler de l'Ossango.
Oui, bien sûr. Donc ça va nous faire quand même une liaison formidable. Donc merci à vous, Frédéric.
Merci, Denis.
Et donc dans quelques instants, je vous emmène dans cette commune de l'Ossango.
I'm flying far away to be really free. Tried hard to build myself independently. It's hard to always do what you expect from me. Just come home, no.
you live through. Today I only feel how I miss you. So it's only fair when it's hard to bear and you ask if I try to come home, no, come home.
Come home, viens à la maison, c'est ce que nous disait Yael Naïm. Et nous, notre maison, eh ben, ça va être le Pas-de-Calais.
Quand on est sur cette fosse, on est chez nous. Et c'est pour ça que la mutation de ce lieu-là, c'est un peu comme si on prenait les gens par la main et que, au travers de la mutation de ce site, on est dans une mutation beaucoup plus globale qui nous amène à nous interroger sur le sens de l'économie, sur la façon dont on va respecter ou pas le territoire, les hommes dans tout ça. Et quand on y développe des structures sur ce qu'aujourd'hui on appelle, ça m'énerve, mais bon, c'est le langage consacré, la croissance verte. Bon.
Oui.
En tout cas, tout ce nouveau développement de l'interface entre économie et environnement, les énergies, le recyclage des déchets, tout ce qui touche autour du paysage et du retraitement des espaces, l'analyse en cycle de vie des écomatériaux. Pour les gens, ça les aide aussi à comprendre dans leur chair, presque, qu'on est passé d'un modèle d'exploitation de cueillette du charbon jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et que l'atmosphère en crève, pour arriver à un modèle qui s'inscrit dans un cercle vertueux de durabilité, etc. Et d'une certaine manière, moi, ce qui me frappe à l'os, c'est que pour les gens, le développement durable, pour eux, c'est du bon sens.
Une musique qui rappelle les harmonies municipales que l'on connaît bien dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et justement, l'harmonie, c'est ce que l'on tente de retrouver sur le territoire où je vous emmène aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Non pas à l'ombre des terrils, mais aujourd'hui à la lumière des terrils. Alors nous sommes à Los Angeles et on tourne le dos en fait à la malédiction. Parce que depuis une quinzaine d'années, Jean-François Caron, deuxième mandat, élu vert à 82% aux dernières élections, excusez du peu, c'est quand même pas si banal dans le coin, veut rendre lisible, accessible le développement durable, preuve à l'appui, pour les 7000 habitants de sa commune sur les 1200 hectares. Alors l'homme est arrière-petit-fils d'un délégué mineur. Son père pensait que l'autonomisation des personnes était le gage d'une société plus constructive, plus vivante. Donc on est dans une lignée d'engagement. C'est aussi un vrai naturaliste, un très bon ornithologue. Et puis il est aussi marathonien. C'est aussi un homme qui est habitué aux longs raids à vélo. Donc ça veut dire qu'il voit loin, qu'il sait gérer son effort. Et son opiniâtreté partageuse en bandoulière, eh bien l'homme est habitué à penser au temps long. Ça tombe assez bien parce que le développement durable est le seul espace de temps long pour un élu aujourd'hui qui doit être toujours dans la réaction, la surréaction, mais souvent sans trop de vision. Donc on part de loin sur ce territoire. La prise de risque est obligatoire en situation de crise. C'est donc l'histoire d'une action politique qui peut retourner l'histoire avec un grand H cette fois.
Ah, Jean-François Caron, qu'entendons-nous? Nous sommes accueillis par qui?
Oui, ben là, c'est une première, pour vous comme pour moi, la première charbonnière de l'année. Une petite mésange qui est sur le carreau de fosse.
Et d'ailleurs, mésange charbonnière ici, dans ce coin-là.
Oui, c'est ce que j'avais pas pensé.
Et oui, parce que nous sommes chez vous à Los Angeles, Jean-François Caron. On va dire que vous avez changé complètement le regard de ce lieu, qui n'était pas complètement favorisé, parce que c'était vraiment emblématique de la désindustrialisation dans les années 70-80. À côté, sur l'autre commune, il y a une plateforme chimique. Le territoire est quand même morcelé, on l'entend, par des routes, des autoroutes. Donc c'était pas véritablement gagné. On va dire que c'était, vous étiez vraiment dans la suite d'un développement qui était non durable.
Ben, déjà, moi j'ai le sentiment d'être la génération future du développement non durable du siècle qui s'est déroulé. C'est-à-dire tout le monde dans ma famille, comme tout le monde ici, a travaillé au fond de la mine. J'ai perdu un grand-oncle à 34 ans de la silicose. Bon, tout ça, c'est notre quotidien. Et ce modèle de développement, il nous a laissé un territoire martyrisé quand même, marqué physiquement. Par exemple, dans ma commune, le sol a baissé de 15 mètres, donc les rivières ont changé de sens, les réseaux d'eau sont fracturés à cause des affaissements miniers. Bon, donc il y a des éléments physiques. Il y a des pollutions, il y a un déficit d'image terrible. Hein. Le bassin minier, c'est pas très vendeur en France. Et puis, des séquelles économiques et sociales très très fortes. Quoi. Taux de chômage, on a perdu 250 000 emplois en 30 ans. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu notre chance, parce que le non durable, ici, ça crève l'écran, quoi. On se dit que tout ça, ça a créé de la richesse, ça a servi des intérêts, c'est sûr, des capitaux, mais que tout ça est parti. Et nous, aujourd'hui, ben, on doit gérer un territoire en très, très grande difficulté. Alors, la durabilité comme projet de ville, quoi, enfin, ça paraît presque évident. Alors, après, évidemment, ça nous impose à l'inverse un changement radical de culture. Parce qu'il va falloir apprendre à relaisser une place à l'environnement, à la nature. Il va falloir redonner confiance aux gens qui ont l'impression d'être qui sont cassés par le système. Donc c'est des challenges sur tous les plans.
Alors une chose importante, puisque vous êtes vraiment un de ceux qui mariaient le social et l'environnemental. Redonner de la dignité, mais aussi redonner la parole aux gens, c'est vraiment les mettre dans la boucle. Et vous faites ce que vous appelez, vous, de la participation présentative. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'ici, on est le résultat d'un modèle de développement. La conviction, c'est que c'est pas par des rustines qu'on va changer le modèle. Ouais. On vit un changement de civilisation. Nous, on l'a peut-être vécu avant d'autres. Mais tout le monde aujourd'hui est affronté à cette question-là. On sent bien que ce modèle-là, il est mortifère, il ne nous donne plus le bonheur et il n'a pas d'avenir. Bon. Alors, du coup, on est obligé d'avoir un raisonnement global. Si on veut redéclencher de l'initiative, de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois, si on veut que les gens respectent l'environnement et même le reconstruisent, il faut qu'ils en soient acteurs.
Donc qu'ils soient présents. Alors comment ça se passe? C'est une suite de réunions publiques, mais ça c'est nécessaire, mais c'est peut-être pas suffisant. Après, comment ils passent aux actes?
Effectivement, le mot c'est acteur. Hein. Donc nous, on a toute une série de politiques autour du concept d'habitant-acteur. C'est par exemple la mise en mouvement d'un certain nombre de politiques municipales plutôt que de créer un office municipal des sports et de la jeunesse. C'est-à-dire faire confiance à des acteurs avec qui on va passer des contrats. Ça veut dire reconnaître le droit à l'initiative. Par exemple, on a mis en place un système qu'on appelle 50-50. C'est-à-dire les habitants d'un quartier peuvent être porteurs d'un projet d'embellissement, d'aménagement, de fleurissement. Ils l'élaborent entre eux, ils rencontrent nos services, on le construit, on l'affine ensemble. Et ensuite, on signe un contrat. Par exemple, la ville amène les jardinières et les plantes et les habitants vont arroser et désherber. C'est-à-dire que on est tous dépositaires de la façon de vivre ensemble et on est tous dépositaires de l'espace public finalement.
Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Je suis suspendu, c'est ça ?
Pire.
Viré. Pire encore.
Pire que viré, c'est quoi ? Démuté dans le Nord.
Le Nord ? Non.
Non, je prends un autre exemple. C'est un jardin dans chaque école. Bon, ouais. On fait un gros boulot avec la chaîne des Terries autour de tout ça.
La chaîne des Terries, c'est une association que vous avez créée dans les années 85.
Voilà, qui est un CPE, centre permanent d'initiative, oui, pour l'environnement. Oui. Bon, du coup, ça nous amène à faire toute une série de choses dans le champ de la biodiversité. Par exemple, on fait un suivi scientifique des populations d'hirondelles avec la population. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les gens qui nous signalent quand les hirondelles rentrent. Et donc, dans l'exemple du jardin, on veut bien, nous, amener les engins, amener les services techniques pour mettre en place un jardin. Mais il faut que les parents et que les grands-parents s'engagent derrière à faire un boulot avec les enfants et à gérer le jardin. Alors, derrière tout ça, il y a à la fois l'idée de démultiplier l'action, parce qu'on est des communes très pauvres ici. Ah oui. Hein. On atteint, selon les communes, entre 60 et 70% de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc, ah oui, ça donne un ordre de grandeur. Donc, à la fois, ça démultiplie ce qu'on peut faire, mais surtout, une des choses qui, pour moi, est très importante, c'est que les gens comprennent que l'intérêt général, ça ne tombe pas du ciel, quoi. Ça se construit. Finalement, il y a une forme de qualification, oui, par la mise en situation, par l'écoute d'autres points de vue, par la mesure des résultats aussi, ça c'est important. Quand on s'est mis à faire du HQE dans la ville, quand on a commencé à faire connaître les mesures d'économie de chauffage pour les gens qui étaient dans l'éco-construction et le HQE, ben, tout le monde venait me voir en disant « Mais pourquoi moi, j'aurais pas le droit au HQE dans l'habitat ?»
Donc, rapport direct entre le social et l'environnemental. On en plein dedans, les gens regardent leurs factures, ils comprennent. Quoi.
Ici, on peut pas...
Parce que la facture, attendez, excusez-moi, elle a baissé de combien ?
Alors, dans la résidence chez Comendes, chiffre en main, 35%.
Ouais.
Alors, sur une opération des années 2000. Hein, mais ça, c'est l'évaluation la plus... fiable qu'on ait pu faire, puisque c'est facture en main sur des opérations de la même année par le même bailleur, mais avec une démarche HQE à l'os et sans démarche HQE ailleurs. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des résultats encore bien, bien supérieurs. Mais encore une fois, il y a un travail de révéler les choses. L'un des problèmes du développement durable, c'est qu'il n'est pas visible. La biodiversité, ça saute pas aux yeux immédiatement. La façon dont une maison économise l'énergie, si on le révèle pas, ça ne se voit pas. Le vivre ensemble et la qualité du lien social entre les gens, ça doit être révélé. Donc c'est aussi pour ça que derrière cette production d'une autre façon d'imaginer la ville, il faut aussi le partager, il faut le vivre dans la fête, il faut en débattre. Enfin, c'est l'affaire de tout le monde, quoi. C'est pas le point de vue des élus technocrates d'inventer de la durabilité.
Il y a longtemps, mais je m'en rappelle, chez Tolam et la région, il fallait saquer Alpel, un chétal, neige carbon, un étonnoyer de sueur, un imméto tout 5 heures, un savot que chaneto pas pour rien. J'ai comme chat qu'un gagneau sympain, pour chat un netto pas tout seul, d'un haut d'inavo deux, tout à l'chette du chevalet, il arrête autre pas de tourner, quand un lèvre, un levaux ses yeux, un netto tout heureux. Aujourd'hui, un nouveau plus chat, j'ai une gros puque, ça retournera. Ils vont bientôt disparaître, les molettes. Il y a Totoche, un vieux mineur, qui vient la voir être
un... François Caron, là, on est en train de quitter le Chevalet, donc extrêmement important. On appelle ce lieu le 11-19, c'est-à-dire ces deux terrils qui correspondaient à deux puits, le numéro 11 et donc le numéro 19. Et devant ce chevalet, ça a été retaluté et on dirait une véritable agora. C'est-à-dire, c'est un lieu de... Vous avez des gradins et c'est un lieu de spectacle. C'est un lieu, en fait, où les gens peuvent se réunir, s'asseoir, parler, faire des fêtes.
D'abord, c'est notre totem. Parce que dans le monde de la mine, le chevalet, c'était l'endroit où les mineurs descendaient, les molettes tournaient. Donc, c'est porteur d'identité, de symbolique très, très forte. C'est pour cette raison-là que la transformation de ce site minier, finalement, c'est un lieu un peu de médiation, quoi. C'est un lieu qui sert de passage entre une activité qui était très prédatrice, énergie fossile, atteinte à la santé des mineurs, et qui devient un lieu d'incarnation de développement durable.
On a voulu le raser. Et vous, votre démarche a été justement de faire l'inverse. Vous avez dit, attendez, il y a une identité quand même qui est extrêmement forte. Faisons autre chose avec et offrons d'autres couleurs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on voit ça au loin, les terrils paraissent évidemment noirs. Et là, quand on s'approche, on est complètement dans la nuance. On est déjà dans du petit vert naissant d'un pré-printemps. On est dans du gris, on est dans du bois. Donc, on n'est plus dans le noir déjà.
Oui. Une des choses qu'on porte très fort ici, c'est que le développement durable ne peut pas être hors sol. On ne peut pas faire du développement dans le reniement de ce qui nous a constitué. Mais c'est notamment pour cette raison-là qu'on a lancé la démarche d'inscription du bassin minier à l'UNESCO à partir d'ici, de l'Haut-Saint-Goël. Derrière cette démarche à l'UNESCO, l'idée c'est quoi ? C'est cette histoire, elle est considérable, elle est très forte. Elle a été marquée des immigrations venues de toute l'Europe qui nous ont donné une culture d'intégration très très forte. Elle est porteuse de valeurs de courage, de simplicité, de sens de la fête, mais elle est aussi porteuse de gens morts très tôt, d'énormément de problèmes. Mais c'est une vraie histoire. Alors, on l'assume, on en est fier, en même temps, on la transcende et on la dépasse. Et donc, on n'est pas dans une logique de muséographie, de nostalgie. Mais ces lieux-là, ils sont tellement forts, ils sont tellement évocateurs, qu'en même temps, ils nous aident à muter vers cette nouvelle civilisation.
Allez, une petite pause avec Aubert et on retourne dans le Pas-de-Calais.
Je veux chanter,
purée décombre de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Sur les braises, il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge.
Théo de mon amour, Denis Chessou.
Donne-moi la main, camarade, même si demain on est dans la panade. Écoutez, la chanson d'Aubert collait parfaitement parce qu'on est véritablement dans le vivre ensemble, ce qui paraît évident comme ça sur le papier, mais c'est drôlement bien quand c'est appliqué. C'est d'ailleurs aussi un peu notre philosophie globalement sur France Inter, hein, le vivre ensemble et le mieux vivre ensemble avec vous aussi. Donc cet homme-là, on le voit bien, donc travaille avec la population. En Scandinavie, ça fait pas mal de temps. Hein, les élus ne se sentent pas dépossédés de leur pouvoir en mettant les habitants dans la boucle. Donc il y arrive, petit à petit. Donc il est obligé d'aller contre des pensées uniques. Et puis aussi, tenez, contre des pensées techniciennes un peu dominantes lorsque l'on parle de l'eau.
Quand on récupère les eaux et qu'on les infiltre, là on voit des noues autour hein, qui permettent de stocker les eaux.
Ouais.
Ça fait depuis maintenant 98 qu'il n'y a plus une goutte d'eau qui part au tout à l'égout dans tous nos ouvriers.
Et là vous étiez précurseur parce que vous êtes même frotté avec des gens de la DDE pour qui culturellement c'était une folie totale. Quoi,
bien
ça,
sûr.
Ça.
Bien sûr, parce que pour eux, une goutte d'eau, on mesure la pente d'évacuation, on mesure les débits, alors que la goutte d'eau, elle est tout simplement faite pour s'infiltrer. Quand on dit ça aux gens, quand on leur dit tout simplement, ben, vous savez, le stade de foot, maintenant, on va l'arroser avec l'eau de pluie récupérée par l'eau des vestiaires,
ouais.
Ils regardent, ils disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant,
ouais.
Et donc, quand on parle de l'eau, quand on parle de l'énergie, qu'on va privilégier de faire des logements plutôt bien isolés et avec des chauffages intelligents plutôt que du chauffage électrique qu'on a interdit ici depuis les années 97-98.
Ah d'accord, ça vous avez interdit, ça, comment ça se passe lorsqu'un bailleur ou bien lorsqu'un promoteur venait, vous lui disiez, bah, attention, pas de chauffage électrique.
Exactement, exactement, parce que le chauffage électrique, c'est à la fois une aberration du point de vue énergétique,
oui.
Mais c'est aussi un outil de précarité terrible pour les gens parce que ce sont les ménages les plus pauvres qui sont le plus exposés aux modes de chauffage les plus coûteux. Et c'est une honte insupportable. Bon. Et donc, je pense qu'il y a dans le développement durable, finalement dans la façon de remettre un certain nombre de valeurs au premier plan, plutôt des valeurs de respect de la vie que des valeurs d'accumulation et de consommation, ou dans la façon de gérer l'espace et la ville, pour les gens, c'est du bon sens. Et puis, ça peut aussi prendre des formes sympas. Bon, je prends l'exemple du Pic Vert. Bon, on est dans des communes où, malheureusement, la nature a énormément reculé de l'industrialisation, l'urbanisation. Bon, on a refait 15 km en un mandat là, de trame verte, de ceinture verte dans la ville, de corridor biologique. Bon. Et avec le CPE, on a fait des mesures, on équipe les oiseaux de mini balisargos. Et on peut les suivre avec un radar. Et on s'est aperçu que les espèces, et notamment le pic vert, ont retrouvé les points de présence exactement sur le corridor biologique et qui redescendaient à partir de nos quelques friches par les corridors biologiques. Et donc, moi, j'explique ça en réunion publique, en cérémonie des vœux, on a 700, 800 personnes, comme je leur parle des abeilles ou des papillons. Et du coup, je dis aux gens, mais est-ce que quelqu'un a vu le pic vert? Et puis, il y a des mains qui commencent à se lever dans la salle. Et le pic vert devient l'objet de la discussion. Quoi. Ah oui, c'est vrai, il a raison, le maire, tu l'as vu, toi? Ouais, moi, j'en avais jamais vu, c'est beau. Bon. Et encore une fois, pour les gens, tout ça, c'est, je sais pas, c'est appropriable.
Vachement loin, on va dire, d'un certain nombre de personnes qui pratiquent le greenwashing, c'est-à-dire qu'on va vous planter trois panneaux solaires dans un coin, et puis à côté de ça, vous allez avoir 300 passoires thermiques à côté, quoi. Donc vous essayez, là aussi, d'avoir une cohérence sur l'ensemble de votre territoire.
Oui, alors, c'est vrai que le fait d'être maire, et d'être très convaincu de tout ça, ça offre l'opportunité de prendre toutes les politiques de la ville,
ouais,
et à chaque fois, de les relire avec une double entrée. Premièrement, quel processus collectif on met en œuvre pour justifier la pertinence de ce qu'on va entreprendre? Et deuxièmement, quelle grille de lecture qui à chaque fois dit en quoi ça crée de la richesse et donc de l'économie, en quoi c'est environnementalement parlant compatible, voire même ça reconquiert l'environnement, ici c'est le cas chez nous, il faut reconquérir, et en quoi c'est socialement, sociétalement parlant, bon pour l'humain. C'est tout simple finalement le développement durable. Et donc cette démarche-là de durabilité appliquée sur toutes les politiques de la ville, c'est comme ça aussi par exemple qu'on en arrive à dire mais pourquoi tout le monde conduit son enfant en voiture à l'école? Ça c'est le quotidien d'un maire. Si les gens pouvaient rentrer avec la voiture dans la classe, ils le feraient.
Bien bon.
Alors qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Ben, moi je vais en voiture parce que vous comprenez, j'ai peur que mon enfant ait un accident parce que sur la route...
Ça s'enlève tout ça.
Alors, moi je leur dis mais... On est porteur d'un plan de pistes cyclables, de trames vertes, de chemins sur lesquels les enfants ne seront pas en contact avec les voitures. Et globalement, tout le monde dit, mais moi, si vous me garantissez que effectivement mon enfant va être en sécurité et tout, le retour vers l'école en marchant, oui, ça commence à prendre du sens. Et c'est pour ça qu'il faut partir de où sont les gens, de leurs problèmes.
Partir du besoin.
Du besoin.
L'attente.
Tout ça, ça amène à une prise de conscience progressive que c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'au final, si vous demandez aux habitants de Loos, ils vont pas forcément avoir le sentiment que c'est révolutionnaire ce qu'on fait. Ils ont l'impression que ben non, on discute ensemble des choix, on essaye de les faire pas trop coûteux, de respecter l'environnement et que ça crée pas d'injustice sociale. Mmh. C'est assez simple. Mais derrière, avec le temps, ça finit par produire des effets de système, comme on l'a vu sur le HQE et aujourd'hui le fait qu'on est devenu un pôle économique de premier rang là-dessus.
Papa, je veux pas perdre mes orteils.
Mais pourquoi tu perdrais tes orteils?
Je veux pas aller dans le pôle Nord.
On va pas dans le pôle Nord, on va dans le Nord.
Alors Jean-François Caron, là, on est en train de marcher sur ce qui est déjà votre ceinture verte. Alors ça, racontez-nous, on l'a bien compris, on est dans une région là-dessus aussi qui est défavorisée parce que il y a moins d'espaces naturels dans la région Nord-Pas-de-Calais qu'en France. On doit à peu près avoir 13% pour une moyenne française qui doit tourner autour de 35-38% à peu près. Donc chaque mètre carré, on va dire, de verdure compte. Et puis, il y a ces fameuses trames vertes, ces corridors biologiques pour que la végétation, pour que la faune puisse passer. Donc maintenant, il y a un va-et-vient donc, qui a pu s'opérer. Et puis, j'allais presque dire que cette ceinture, ben, justement, elle cerne aussi votre identité. Parce que, comme de plus en plus, les métropoles ressemblent à des grandes banlieues en permanence, c'est-à-dire qu'on a un mitage dans tous les sens, on ne sait pas où on est quand on arrive dans une ville, ben là, ça permet aussi de se réapproprier, je dirais, le territoire, sans du tout, d'ailleurs, être enfermé dans son petit village gaulois. Quoi.
On est parti de friches. Par exemple, les Houillères utilisaient beaucoup de chemins de fer et qu'on a pu récupérer les assises.
Alors, il y a les communes, on les a revendues.
On appelle les cavaliers.
On les appelait les cavaliers, oui, c'est ça. Mais aussi parce qu'on a inscrit sur notre plan d'occupation des sols, ce qu'on appelle des lots réservés, et on rachète des terrains au fur et à mesure pour recréer des continuités. Alors, c'est vrai que la ceinture verte, ça paraît tout simple, mais c'est d'un effet maximum. Le principe, c'est de marquer la limite de l'urbanisation, donc faire le tour de la ville, non pas comme on le faisait dans le temps avec des remparts défensifs, mais là avec une ceinture dans laquelle on va à la fois gérer des eaux de pluie qui vont s'infiltrer, donc des systèmes de noues, avec du coup des petites zones humides pour les moments où il va pleuvoir beaucoup, avec en permanence un système de haies basses et de haies hautes, donc plantation d'arbres,
effectivement,
et de la végétation herbacée, hein, plus classique. On en a par exemple aussi profité pour mettre en place des espèces de fruitiers qui disparaissaient du Nord-Pas-de-Calais, donc on a un peu une fonction conservatoire génétique.
On les a sous les yeux. Hein,
voilà. Et donc du coup, cette ceinture verte, elle est à la fois un marqueur de la limite de l'emprise de la ville pour éviter son étalement. Elle est une façon de relier les quartiers extérieurs entre eux sans repasser par le centre-ville et notamment du coup de pouvoir le faire à pied ou à vélo. C'est un espace de loisirs évidemment parce que les coureurs y vont, les amoureux, les mémés l'après-midi, ceux qui vont promener leur chien le matin. Ouais. C'est un corridor biologique qui permet la circulation des espèces. Et puis d'un point de vue paysager évidemment, c'est beau parce qu'on y retrouve de la végétation. Dans les évaluations qu'on a fait à la fin du mandat précédent, on a constaté que ce qui ressortait en premier pour les habitants comme résultat de la politique
municipale, c'était la ceinture verte.
C'était ça. Ah, parce qu'elle était porteuse de beaucoup de bénéfices secondaires. Et toutes ces petites choses-là mises bout à bout, ça finit par générer un espèce d'effet, un effet systémique, écosystémique, à la fois sur de la qualité de vie. Alors en ce moment, on a deux chercheurs qui sont en train de faire un travail sur la production d'indicateurs de qualité de vie, justement pour essayer de sortir d'une espèce de dictature presque intellectuelle où on considérerait que la vie, c'est les grosses bagnoles, c'est la possibilité d'aller en Égypte en plein hiver ou je ne sais quoi, hein, et au contraire, essayer de redonner de la valeur à la relation humaine, à la beauté de l'espace qui est autour de soi, à l'abeille qui circule. Et derrière tout ça, je reviens toujours à mon idée qu'il faut révéler les choses, quoi. C'est-à-dire, elles sont présentes, mais il y a aussi certainement un travail de prise de conscience et de mesurer que ça a de la valeur, quoi. Dans la ceinture verte, on a commencé par des jardins avec des associations de chômeurs pour un peu dans la logique des AMAP, commencer à créer des paniers en bio. Mais là, on a un mouvement beaucoup plus de fond, puisqu'on a quand même des terres agricoles sur la commune. Et on voit bien que derrière tout ça, c'est de la reconquête de biodiversité, c'est l'installation de circuits courts. C'est vrai aussi, quand on parle de la construction, par exemple, si tous les matériaux qu'on met maintenant sont des matériaux recyclables, c'est pas la même chose que si on doit les mettre à la décharge. Donc c'est aussi une façon de construire la durabilité. Et si en plus, ici, avec le pôle de compétitivité qu'on a obtenu sur de la recherche-développement, sur la façon dont tous nos déchets peuvent être des matières premières secondaires pour les matériaux de demain, ça veut dire qu'on rentre progressivement dans un cycle beaucoup plus vertueux. Encore une fois, les habitants, ils en ont la conscience de ça. Par exemple, on a généralisé dans nos appels d'offres la commande de matériaux issus du recyclage. On a des bancs issus de matières plastiques retravaillées. Et à un moment donné, les gens se font eux-mêmes les porteurs de la démarche vertueuse.
D'un chez courant, cœur me ménage. Chez mineurs viennent d'avoir le congé. prennent le valise et partent voyager à la campagne ou vire du parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages et je m'en vas, mais je quitte point ma patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends, sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut de Chéri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrange. Et je siffle, je ris et je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire à Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout un haut de Chéri. Comme poil vu faux vierge que je dégote.
Jean-François Caron, là, pendant que nous avons une très jolie petite pluie là, qui se manifeste, ouais. On arrive sur votre champ solaire. Qu'est-ce que c'est donc toujours au pied du terril là?
Ouais, là, c'est malheureux parce que les capteurs sous la pluie, c'est pas le
problème. Oui, bon, c'est... Non, mais déjà optimiste parce que de toute façon, ça veut bien dire qu'on peut faire du solaire aussi dans la région du Pas-de-Calais.
Donc là, ce qu'on a en place, c'est pas vraiment une centrale de production, c'est plutôt une plateforme de test, d'analyse, de caractérisation de tout ce qui sort aujourd'hui sur le solaire. C'est-à-dire que là, actuellement, on a 14 technologies testées, donc sur des systèmes trackers qui s'orientent par rapport au solaire ou qui sont posés au sol, qu'on va mesurer en situation réelle. Comme par exemple, là, il pleut, qu'est-ce que ça produit? Tout à l'heure, le soleil va revenir en fonction des périodes de l'année. Alors, l'idée, c'est derrière ça d'avoir des données qui sont pas seulement les données constructeurs, mais des données fiables parce que mesurées de façon indépendante. De pouvoir avoir tous les outils de formation sur les usages du solaire, de pouvoir faire des recommandations, c'est pour ça qu'on est fortement soutenu par l'État, la région, l'ADEME, pouvoir faire des recommandations sur les bonnes technologies pour les bons usages, entre ce que vous allez mettre sur une toiture en photovoltaïque, ce que vous allez mettre sur un hangar agricole, sur un véhicule. Évidemment, c'est pas les mêmes usages. Donc c'est pour tester ici, quoi. Voilà,
c'est
pour déclencher... Oui, il y a une fonction labo, il y a une fonction mise en situation. Aujourd'hui, sur le solaire, c'est assez incroyable. Tout le monde veut en faire,
c'est très
à la mode. Et 90% des acteurs sont en incapacité de faire les bons choix. Les maires m'en parlent, les architectes eux-mêmes. Et ça a aussi comme effet de faire la démonstration qu'il ne suffit pas d'être à fond remeu ou au milieu de l'Afrique ou du Sahara pour produire du solaire. Dans le Nord, en Allemagne par exemple, en Hollande, il y a énormément de production photovoltaïque. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible ici aussi. Et cet outil qui est au pied des terrils, encore une fois, c'est là aussi le symbole complet du retournement sur un endroit où
on a deux énergies.
On sortait du charbon et aujourd'hui on est basculé dans l'ère du renouvelable. Donc il y a une connotation de la transformation du territoire minier et du changement du rapport à l'énergie.
Ce qu'on entend, c'est qu'il y a à la fois... complètement du bon sens depuis que vous nous en parlez à travers ce développement durable et aussi du high-tech qui veut très bien cohabiter.
Bien sûr, parce que le développement durable et le bon sens, ça ne veut pas dire, comme en agriculture bio, qu'on va simplement faire comme avant. Aujourd'hui, l'agriculture bio, elle va exiger des techniques de recherche pour être capable de lutter contre les maladies et de pas avoir 50% de sa récolte qui est foutue en l'air. Sur le bâtiment et sur la recyclabilité des matériaux, c'est avec les meilleurs laboratoires de chimie de la région qu'on travaille, et ainsi de suite. Donc la volonté de vouloir sortir de la technicité comme seule perspective d'avenir et de tout traiter de façon technologique, mais en même temps, il y a aussi besoin de beaucoup de modernité pour faire face aux enjeux de la déperdition d'énergie dans les maisons, d'être capable de réutiliser les matériaux indéfiniment plutôt que de les extraire du sol et de les rejeter. Et puis c'est aussi un puissant facteur de changement d'image parce que notre territoire retrouve de l'attractivité.
Donc ici on sait capter le soleil, l'analyser, mais on ne sait pas forcément le faire venir.
S'il y en a, mais depuis Bienvenue chez les Ch'tis, on sait que... On sait qu'il tombe de la pluie dans le nord, c'est vrai.
En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois?
Moins 40?
C'est le nord.
Oui, mais nous, c'est le Pas-de-Calais, vous l'avez compris. Allez, on va encore un tout petit peu dans la nature.
Ah là, Jean-François, on est sur un lieu que vous affectionnez parce que c'est un site. Là, on est donc sur au pied de ce 1119, c'est-à-dire de ce grand terril, de ces deux grands terrils. C'est le site du Lézard des Murailles. Alors racontez-nous, parce que là, vous êtes aussi vous, un naturaliste et un ornitho de la première heure. Qu'est-ce qu'il vient faire, le Lézard des Murailles? Pourquoi il trouve un milieu favorable à son épanouissement ici?
En fait, parce que les terrils sont de couleur noire, ouais. Avec des sols qui, au début de la végétation, c'est-à-dire dans les premières années d'un terri, il n'y a aucune végétation dessus.
Ouais.
Et donc, l'effet de noirceur plus l'effet de pente fait que les températures montent très très vite. Et le Lézard des Murailles a besoin, pour son cycle de reproduction, d'un certain nombre de mois où, comme c'est un animal à sang froid, il faut que la température s'élève suffisamment pour qu'il puisse se déplacer.
Bon. Donc il a son petit radiateur personnel.
Voilà, et donc les stations les plus au nord de cette espèce ont été trouvées ici parce que, évidemment, partout ailleurs, il y avait moins cet effet de chaleur locale. En fait, ce qui jusque-là m'apparaissait comme des montagnes qui étaient là devant l'horizon.
Des montagnes subies, on va dire.
Voilà, oui. J'ai commencé à me dire, mais en fait non, il y a des espèces d'oiseaux très très rares qui y vivent. Et du fait de ce changement de regard, j'ai commencé à me dire, mais en fait, tout ça s'est passé dans les mains des mineurs, ça a pris une forme de petite montagne, c'est chargé de sueur, c'est chargé de sang. D'un point de vue urbanistique, ce sont des repères dans notre plaine du Nord. Enfin, le terril est le même. Lui, il n'a pas changé. C'est moi, c'est nous, la population, qui avons changé le regard sur lui. Et que l'effet de crise qu'on a vécu nous a ouvert des possibles, peut-être pour essayer d'introduire un modèle de développement plus humain.
Vous voyez, j'ai consacré cette émission quand même principalement à cette commune parce que ça donne envie. C'est une autre manière aussi de parler du Pas-de-Calais de manière tout à fait positive. Alors aujourd'hui, zone d'activité, un écopôle, une pépinière d'éco-entreprise, un pôle de référence en développement durable au niveau régional. J'ai encore en oublié. Si, une baisse incroyable de l'incivilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème entre voisins, il n'y a plus de dégradation sur la voie publique. Dans tout le canton, c'est quand même assez étonnant. C'est le commissaire local là, donc, qui attestait de cela. Évidemment, il faut quelqu'un d'un peu charismatique qui, après, va aller chercher aussi des crédits. Alors, sur la région, l'État a plus un rond, ça on le sait. Va du côté de l'Europe aussi. Il faut vraiment mouiller sa chemise. Mais ça fait vraiment du bien d'entendre cet homme-là, donc Jean-François Caron, le Sangouais. Alors, un homme que l'on pourra retrouver d'ailleurs dans un colloque très intéressant qui va avoir lieu à Marne-la-Vallée les 20 et 21 janvier prochains, organisé par le commissariat général au développement durable, faire la ville durable, inventer une nouvelle urbanité. Et là, donc, il y aura beaucoup de témoignages sur ces différentes villes durables parce que ça bouge quand même pas mal, fort heureusement. Merci à Marion Lollet, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission, à Muriel Pérez qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui a donc nourri les sites. Denis Chessou, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Notre émission va répondre à vos questions d'ailleurs. 01 56 40 40 35, 56 40 40 35. Et puis je vous retrouve demain, ce sera pour la Tulu mon petit loup. Après les petits bateaux à 19h54, je n'aurai qu'un mot, deux, c'est allez, bon anniversaire.